Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Salvador Dali a-t-il été un peintre classique ou un baroque ? A-t-il été un peintre révolutionnaire ou au contraire un peintre académique, un pompier ? Était-il, comme il le proclamait lui-même, un peintre médiocre ? Était-il surréaliste ou réaliste ? Et pourquoi pourrait-on dire que Dali, au contraire de Picasso, a donné de l'espoir aux artistes qui venaient après lui ? C'était quelques-unes des questions abordées dans le troisième numéro de la série d'émissions que Daniel Lecomte consacrait à Salvador Dali après l'ouverture à Figueras de son théâtre-musée en 1974. Y témoignaient le peintre Liuba, le critique d'art Robert Lebel et aussi le peintre Jacques Hérold qui se souvenait du jeune Dali surréaliste et de son rapport à l'argent. Une émission dans laquelle Dali affirmait avec force qu'il n'y a pas d'art révolutionnaire sans la mémoire de tout ce qui l'a précédé et aussi que la grande peinture ne peut en aucun cas naître sous tous les cieux. Nuit magnétique, clé pour un théâtre-musée, troisième des 10 épisodes, persistance de la mémoire, première diffusion le 8 novembre 1978 sur France Culture.
Salvador Dali, clé pour un théâtre-musée, par Daniel Lecomte.
Dans l'ancien foyer du théâtre de Figueras, les murs sont recouverts de moire mauve. Le tissu entoure des panneaux que l'incendie survenu au cours de la guerre civile a laissé intacts. Les motifs décoratifs en sont constitués par des zéphyrs ailés de la plus grande mièvrerie. En face se dresse le buste de Velázquez sur lequel Salvador Dali a peint des ornements. Des colombins sur les paupières, un rideau de Seine sur la barbiche, tandis que le front porte une reproduction ridée du célèbre tableau des Ménines. Sur le plafond, Salvador Dali s'est représenté lui-même en surplomb, vu par en dessous, comme s'il était monté sur une glace invisible. Au premier plan, le visiteur aperçoit donc la plante de deux énormes pieds, puis le raccourci du corps, terminé par les pointes de la célèbre moustache. À l'autre extrémité du plafond, le regardant, Gala, vêtue d'une robe rouge, apparaît elle aussi, vue par en dessous. Gala et Dali portent à bout de bras un second plafond représentant des dieux et des déesses cascadant entre les nuées, parmi des armées d'angelots. Ainsi, grâce au trompe-l'œil, Salvador Dali mêle l'humour et les références culturelles.
C'est une espèce d'anthologie.
Comment est-il possible, malgré tout, que vous ayez autant d'admiration pour le classicisme et que, par ailleurs, vos références, comme par exemple à propos du plafond, soient d'ordre baroque et d'essence baroque? Est-ce que vous n'êtes pas vous-même plus près du baroque que du classicisme?
Je suis plus près du peintre baroque, mais il ne faut pas oublier que les grands génies, les plus grands de tous et les plus nouveaux de tous, que c'est Velázquez. Velázquez était un peintre baroque.
Velázquez sûrement, mais par exemple Vermeer, que vous aimiez aussi, et Raphaël, pas des peintres baroques, ça.
Raphaël, c'est le vrai classicisme. C'est pour ça que ça, comme il disait Eugenio Montes, ça a la froideur et le parfum d'une rose au début du printemps.
Dali explique son admiration pour le classicisme par son culte de l'imagination. Selon lui, l'artiste qui cherche à être révolutionnaire est contraint de se définir par rapport à tous les mouvements qui ont déjà existé. Il donne alors priorité à la mémoire sur la création.
Évidemment, les êtres qui cassent avec la tradition, ils ont très peu d'imagination. C'est le cas de Perugino et Raphaël. Perugino fait des tableaux que Raphaël presque il les copie. Alors, il a la liberté totale de faire des petits changements minimes. C'est-à-dire, il supprime une marche d'un escalier Il fait la tête que Perugino avait fait droite, un peu plus penchée, à peine. Il fait le dégradé du ciel légèrement plus sombre. Et tout à coup, le miracle
se produit.
Ce n'est plus Perugino, c'est Raphaël. Parce qu'il a pu ajouter à la tradition son âme. Tandis que ceux qui révolutionnent tout, ils sont esclaves des souvenirs et ils ne peuvent pas créer des choses nouvelles. Comme il disait Eugénie d'Ors, tout ce qui n'est pas de la tradition, c'est du plagiat. Il faut suivre, Einstein a suivi la tradition de la physique, il connaissait très bien Newton, il n'a pas voulu révolutionner rien, mais comme résultat, il a fait une vraie découverte, parce qu'il a suivi pas à pas la tradition. Tandis que celui qui casse avec la tradition, il est obligé de se souvenir de tout ce qu'il a vu.
C'est-à-dire...
Il y a de l'art nègre, il y a de Toulouse-Lautrec, il y a de l'art primitif, il y a tous ces souvenirs.
C'est-à-dire que pour vous, la tradition, et par là même une certaine contrainte, est bénéfique.
Ah, c'est l'unique qui peut permettre d'ajouter quelque chose à l'histoire de l'art. C'est-à-dire que pour moi maintenant, toutes les traditions de l'histoire de l'art, c'est des, comme je dis, des bits d'informations, et à ces informations on peut ajouter quelque chose que c'est la troisième dimension maintenant, en holographie et en peinture stéréoscopique, et ça deviendra un art absolument original. En ayant suivi pas à pas la tradition de l'art moderne.
Cette nouvelle forme de peinture correspond naturellement à la peinture minutieuse du début du siècle que Dali admire tant. Cependant, quand les peintres traditionnalistes, dit Pompier, s'opposaient au dynamisme des impressionnistes, n'étaient-ils pas gagnés par une certaine sclérose? Et l'art classique en général peut-il plus facilement échapper à l'entropie, la mort du monde physique qui obsède Dali, que l'art baroque, préservé en principe des stéréotypes, par son exubérance même?
Non, c'est le contraire. Parce que dans l'entropie, comme vous savez, ça va vers, vers le diamant, l'anéantissement.
Dans la lumière.
Tandis que dans le tableau de Raphaël, on démontre le contraire. Raphaël ne fait qu'améliorer, de son point de vue, le tableau de son maître Perugino. C'est-à-dire que tout d'un coup, il refait un tableau comme Perugino, mais il ajoute de la vie. C'est-à-dire qu'il supprime deux ou trois escaliers avec des choses infimes qui pourraient s'appeler le quantum d'action dans la peinture. Et vous savez que ce qui contredit le plus le système de l'entropie, c'est dans la microphysique, c'est le quantum d'action de Max Planck.
Mais est-ce que, malgré tout, dans son élan, le baroque n'est pas plus près, justement, de la négantropie, de la loi d'exclusion? Est-ce qu'il n'est pas plus près de ça?
Non, je crois que le classicisme, comme Raphaël, c'est plus près de la négantropie. Parce que dans le baroque, il y a énormément de déchets. Tandis que dans un tableau comme celui de Raphaël, il n'y a pas de déchets.
Mais quant à vous, alors, vous n'avez pas peur de ce que vous appelez le déchet et le mauvais goût. Vous avez toujours trouvé que c'était plus créateur.
C'est-à-dire le mauvais goût, très souvent, il est dans la ligne de la négantropie, mais très souvent, comme le kitsch, tout ça, c'est le contraire. C'est-à-dire c'est une espèce de dégénérescence qui va nettement à l'anéantissement total.
Faut-il en déduire que Salvador Dali, qui reconnaît être un peintre baroque, ne peut s'empêcher de participer à l'entropie, donc à la mort du monde, malgré son désir d'aider à la négantropie? Mais pourquoi alors s'est-il efforcé de transmettre son savoir dans un livre intitulé « 50 secrets magiques » ?
Je suis un très mauvais peintre, uniquement je suis bon parce que les autres sont plus mauvais que moi, c'est tout.
Oui, mais vous reconnaissez quand même une certaine habileté, non ?
Non, une certaine... dextérité apprise à l'école de Beaux-Arts de Madrid.
Oui,
mais... C'est là où il y avait des professeurs qui comptaient encore. Maintenant, il n'y en a plus.
Oui, mais enfin, tout le monde n'a pas écrit 50 secrets magiques. C'est donc un problème qui vous importe, puisque vous le transmettez aux autres.
Ça, c'est peut-être le contraire, puisque c'est un éditeur que croyant plus ou moins que je savais peindre, il m'a demandé d'écrire le livre. J'ai fait un contrat et je l'ai écrit. Et après, j'ai commencé à peindre en lisant mon livre.
Bon, c'est donc une espèce de mystification.
Exactement. C'est-à-dire, c'est des choses que seulement je savais dans mon subconscient, je les ai écrites, et après, quand je voulais peindre bien, je disais, allons lire le livre que j'ai écrit sur ça.
Oui. Non, parce que là, ça fait véritablement scientifique. Vous citez toutes les couleurs, la façon de les mélanger, le vernis à l'ambre, tout ça.
Tout ça, c'est inventé sur le temps.
C'est inventé. Pourtant, il doit y avoir des...
Ah, il est en fond de vérité.
Oui.
Comme il disait Rému. Rému, une fois, il a dit qu'à 22 ans, j'ai fait 25 fois l'amour. Alors, tout le monde a rigolé. Il a vraiment... parler d'autre chose, et lui, il avait un coup de poing sur la table, il disait, viens, même dans ça, il y a un fond de vérité. C'était pas moi, c'était ma sœur.
Dali est-il réellement, comme il le dit, un mauvais peintre, inférieur même aux peintres pompiers du début du siècle? Robert Lebel, critique d'art qui a participé au mouvement surréaliste, partage l'avis du maître sur lui-même, surtout à propos de sa peinture actuelle.
Dali a toujours été pompier, il l'est toujours resté et il l'est encore. Par conséquent, il n'a jamais quitté le pompiérisme. Même lorsqu'il était surréaliste, à ses moments les plus inspirés, on peut le dire, parce que qu'est-ce qu'il a fait picturalement? Sur un fond d'académisme, il a ajouté des... fioriture, on peut dire, qui brouille le tableau et lui donne un aspect fantomatique, délirant, etc. Bon, il a fait ça pendant un certain nombre d'années, pas très longtemps. Je dirais que sa période surréaliste a duré 10 ans au maximum. Après quoi, il est revenu au pompiérisme qu'il n'avait jamais en réalité quitté.
Mais est-ce que profondément, Dali n'est pas un maniériste? Profondément.
Non, il n'est pas un maniériste non plus. Parce que le pompiérisme, c'est pas du maniérisme, c'est le contraire. Mmh. Parce qu'au fond, le pompiérisme, c'est un délire, n'est-ce pas? D'ailleurs, maintenant, c'est très curieux, avec la mode rétro, tous ces tableaux dont on a ri pendant tellement d'années, ces espèces de personnages nus, qui courent en gesticulant, n'est-ce pas? On s'aperçoit que c'est délirant. Ces gens-là, qui se prenaient pour des classiques, qui considéraient les impressionnistes, les pauvres, n'est-ce pas, qui sont vraiment des anodins, n'est-ce pas, et qui les considéraient comme des sauvages, étaient en réalité des démons. La peinture académique est démentielle. Dali, il aurait pu parfaitement, s'il était resté en Espagne, devenir président de l'Académie des Beaux-Arts de Madrid, n'est-ce pas, être grand cordon de l'ordre de Franco, et puis être maintenant avec le roi, parce qu'il se serait toujours adapté aux nouvelles étoiles, n'est-ce pas, il serait devenu un illustre académicien.
Mais Dali est le contraire d'un académicien, aux yeux de Ljuba, artiste yougoslave, qui vit en France et dont la peinture se rattache à un courant fantastique.
Il y a quelque chose qui dépasse les possibilités d'être humain chez Dali, c'est son qualité de travailler sur le détail et sur des choses tellement minuscules, presque invisibles. C'est-à-dire, quand je vis le petit tableau, qui était presque, je crois, 5 sur 8, par exemple, très très petit, j'ai tellement frappé par la précision qu'il a exécuté. Bien sûr, avec la qualité picturale et tous les autres. Mais je crois que chez Dali, il y a une chose qu'on ne trouve pas, même dans l'histoire de la peinture, si vous voulez. On n'a jamais vu quelqu'un qui a travaillé avec cette précision. Et quand j'étais, l'année dernière, je visitais le musée de Dali, dans sa ville natale, Figueres. J'étais très étonné parce que Dali, je crois, il a fait ça exprès. Il a mis dans ce musée le plus grand tableau qu'il a fait dans sa vie et le plus petit aussi.
Et ni dans le cas du grand tableau, ni dans le cas du petit tableau, vous n'avez l'impression que c'est une peinture morte, pompier, mais qu'à chaque fois, il y a suffisamment d'intensité.
Si vous voulez, je peux faire une petite comparaison qui existe entre, disons, Picasso et Dali. Je crois que la différence est énorme parce que Picasso, il a mis la peinture dans un cul-de-sac. C'est-à-dire, après Picasso, on ne peut pas continuer. C'est-à-dire, il a vraiment mis la peinture dans un état de merde que chaque personne, si veut essayer quelque chose, après Picasso, il devient ou bien un petit mauvais Picasso ou rien du tout. Le cas de Dali, c'est complètement au contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer dans le sens dalien, mais je crois qu'il a donné un espoir. C'est-à-dire, il a mis une ouverture. C'est-à-dire, il a touché notre imagination, il a touché un autre siècle, si vous voulez, il a mis les êtres humains dans une position en expliquant que tout est possible, qu'il se sert de photos. Bon, c'est bien parce que les photos, c'est notre époque, mais il nous indique aussi les possibilités, si vous voulez, faire quelque chose hors de nos possibilités humaines. Et pour ça, je crois qu'il y a cette différence. Pour moi, c'est très important, parce que Picasso, si vous voulez, il a enterré la peinture, et Dali, il lui a donné la chance.
Moi, je crois, d'abord, que la peinture de l'avenir, elle se trouve quelque part entre Dali et Francis Bacon. Pour ça, le problème d'Ali m'intéresse beaucoup. Et si vous voulez, moi j'étais voir cette exposition à Rotterdam pour finalement voir une image complète sur Dali. Et je crois que dans les tableaux de l'époque, disons de l'époque surréaliste, c'était le tableau de sa jeunesse. Il était dans ce cercle vicieux de surréaliste et ces tableaux de cette époque-là, ils sont bien nourris, disons, sur le plan pictural et bien sûr avec une hallucination incroyable avec les images. Et malgré tout, j'ose dire qu'il n'était pas tellement surréaliste, il était réaliste, parce que dans tous ces tableaux anciens, c'est l'Espagne, surtout le ciel. Parce que le ciel d'Espagne, c'est quelque chose de tellement original et caractéristique, parce que ça, c'est le si vous voulez, deux lumières différentes, la lumière de Méditerranée et la lumière atlantique. Et ces deux lumières, elles se croisent dans le ciel et ça fait un drame incroyable que Dali l'a mis dans ce tableau. C'est-à-dire une partie de ce tableau qu'on appelle le tableau surréaliste, ce sont une partie vraiment réelle. Quand je vis le tableau de Dali, je pensais que c'est un ciel imaginaire. Et quand je vis l'Espagne, je constatais que ce n'est pas un ciel imaginaire. C'est un réalisme pur.
Or, il semblait, après le cubisme, l'expressionnisme, le fauvisme et plus récemment la peinture abstraite, que les problèmes de lumière avaient perdu de leur importance. Mais pour Dali, seule une certaine lumière permet de faire de la bonne peinture.
Vous savez qu'il y a une théorie qui dit que de bonne peinture, on n'en fait que dans certains lieux. Vous avez l'air de le confirmer en disant qu'il n'y a pas de bonne peinture en Suède.
À un tel point que si on me disait qu'aujourd'hui, qu'en Finlande, il se produit le phénomène qu'il y a un Velázquez, je ne le croirais pas. Parce que la peinture est un phénomène exactement comme les truffes. Ça sort dans certains endroits et dans d'autres, ça ne sort pas.
Bon.
Mais... Alors, évidemment, l'Hollande, l'Espagne, la peinture française, on pourrait presque s'en passer. C'est des maîtres de deuxième ordre. Et
l'Italie.
L'Italie, naturellement. Et maintenant, ça se produit en Amérique, un phénomène qui n'est pas vraiment de la peinture, mais c'est un phénomène moral qui peut apporter de la peinture extraordinaire en Europe un jour.
Jusqu'alors, l'Europe avait eu le monopole de la grande peinture, mais pas de façon uniforme. Pour expliquer que certaines régions étaient plus favorisées, Taine avait émis la théorie d'une atmosphère chargée d'humidité. À Venise, en Hollande, en Île-de-France, la lumière diffusée par les gouttes d'eau incitait les tempéraments artistiques à peindre. Dans ce cas, l'Espagne, réputée pour son climat chaud et sec, aurait dû ne pas faire partie des terres favorisées.
Non, parce que la question de l'humidité joue un rôle impondérable. Dans Velázquez, il y a une apportation qui vient du Portugal, de Silva, du Portugal, qui apporte une espèce d'humidité, de fluidité à sa peinture, que sans ça, la peinture espagnole aurait pu risquer de devenir trop sèche. Mais cette espèce de mélancolie, cette espèce de saudade qui vient de l'Atlantique et de la mélancolie portugaise donne une espèce de fluidité morose et presque fantomatique aux objets les plus réels que Velázquez peint.
Et alors, vous sachant ça, la précision que vous avez dans tout
ça, ça dépend uniquement de que je suis du Nord. Tous les gens du Nord, comme Raphaël, qui est aussi du Nord, sont des réalistes rigoureux dans le sens graphique du mot. Tandis que le Sud crée déjà la luminosité évanescente. C'est la différence qu'il y a entre les Vénitiens ou les gens du Sud en Italie et les gens du Nord.
On retrouve cette lumière particulière du nord de la Catalogne sur un des panneaux qui complète le grand trompe-l'œil du foyer du théâtre-musée. Des traînées de lumière percent une nébulosité déchirée par les vents du ponant et du levant. Au premier plan, de dos, Dali et Gala contemplent paisiblement un navire qui fait naufrage. À l'opposé, dans une même lumière, apparaît la figure mythologique de la fortune. Elle est vue par-dessous, à côté de sa roue brisée, et de sa cuisse émerge un tiroir-caisse, d'où s'échappe des écus d'or.
Là, il va y avoir, c'est pas fini, il va y avoir des éléments naturels et beaucoup de collages, parce que maintenant, je ne peux pas monter au plafond. Alors, il y a des draperies, des monnaies d'or, c'est-à-dire tout l'or que j'ai gagné dans ma vie, je le rends à la ville de Figueras, à mes compatriotes. Mm-hmm. Alors il y aura une quantité de vraies monnaies d'or collées et d'autres pendues dans des fils invisibles de nylon. Alors ça va être une espèce de divine diarrhée de Danaï.
Oui. Et vous ne craignez pas qu'un jour il y ait comme ça une vigoureuse poussée de la foule pour s'emparer de cet or suspendu comme ça et que ce soit comme un grand spectacle?
Ça, c'est pas, ça rentre dans le système de sécurité du musée, mais pas dans mes plans.
André Breton, pour porter un coup fatal à Salvador Dali, avait fait l'anagramme de son nom, Avida Dollar. Au lieu d'en être accablé, Dali fit de cet anagramme son slogan publicitaire. Un peintre d'origine roumaine, Jacques Herold, qui fit partie du mouvement surréaliste, témoigne de la provocation que le comportement ostentatoire de Salvador Dali déclenché alors.
Quand Breton a fait cet anagramme avec le nom de Dali, Avida Dollar ne pouvait pas vexer Dali, puisqu'il a toujours prétendu et dit qu'il aimait l'argent, qu'il aimait l'or, qu'il aimait la richesse. Et donc, c'était tout à fait normal. On peut dire que c'est un homme qui est très avide d'or. Mmh.
Oui, d'accord, mais de toute façon, lui-même met son amour de l'or en rapport avec les excréments aussi, puisque vous savez que sur le plan psychanalytique, c'est lié. Alors pour lui, ça se tenait, tout ça.
Mais ça se tenait très bien, oui. Oui, évidemment, il a toujours été riche. C'était un des surréalistes qui a toujours été aisé.
Oui.
Il n'a jamais souffert sur ce plan.
Il prétend le contraire dans ses mémoires. Hein? Dans La vie secrète, là, il dit à un moment que s'il n'y avait pas eu Gala et son infatigable envie de séduire le monde et de convaincre que lui, Dali, avait du génie, eh bien que finalement, il serait mort de faim. Est-ce que c'est vrai?
Oh, ça, je ne crois pas. Dali aurait pu très bien être pauvre, bien sûr. Mais enfin, il ne l'a jamais été. Il y a eu d'autres parmi nous qui ont eu du mal à vivre et à se maintenir comme Max Ernst, comme Tanguy, comme Magritte, comme Masson, c'est pas des êtres qui ont vécu richement. C'est cela la grande différence, c'est que parmi nous, on n'a jamais donné grande importance à ces problèmes. tout cela était tout à fait secondaire.
Alors que lui, au contraire, même dans ses mémoires, dit avec cynisme qu'il s'amusait à se promener dans le monde.
Oui, dans le monde des gens aisés, riches, même très riches. Mais enfin, comme ça, on n'était pas mondain, on ne savait pas très bien faire des manières et des... On était un peu, si on peut dire, paysan du Danube. Je me rappelle de Dali, comme ça, dans un café à Montparnasse, où il buvait des verres très chers et il donnait des pourboires encore plus chers, plus grands, n'est-ce pas? Et moi, j'étais ébloui par ces gestes aussi larges et aussi riches de la part d'un peintre.
Mais c'était quoi, par exemple? C'était des pourboires, un équivalent...
Des pourboires, disons, comme aujourd'hui, 1 000 francs de l'époque. 1 000 francs de l'époque, ça doit être à peu près 1 000 francs d'aujourd'hui, j'imagine.
Ouais. Mais qu'est-ce que vous aviez consommé?
Oh, je sais pas, 3 verres de whisky, n'est-ce pas, une chose comme ça. Ou Même pas moi, parce que moi, je savais pas. Je n'avais pas de whisky, une idée très précise. Évidemment, c'est intéressant de le faire quand on peut le faire, mais je voyais cela un peu mal parce que je comprenais très bien un grand bourgeois très riche qui un jour a bu un verre de trop et qui fait des gestes comme cela. Mais nous qui étions... assez, je parle de mes aînés comme Max Ernst, comme Tanguy, comme, qui étions dans la misère, ça paraissait un peu difficile, un peu désaxé. Mais enfin, il avait d'autres choses qui étaient plus amusantes, plus drôles, parce que je l'ai vu un jour sortir avec sa palette, prendre l'autobus, avec une chemise rouge déchirée, aller place de l'Opéra et courir autour de la place de l'Opéra, n'est-ce pas, avec la palette à la main, et faire 10 fois le tour de la place de l'Opéra, et puis s'en aller de nouveau, ce qui, évidemment, paraissait tout à fait étrange, surtout à l'époque. Ou alors courir les filles du jardin du Luxembourg, enfin, l'une après l'autre, comme Harpo Marx l'aurait fait, ou quelque chose dans cet esprit-là. Comme une autre fois est arrivé avec un bonnet phrygien long d'un mètre et couvert de mouches artificielles, n'est-ce pas? C'était amusant, c'était même assez drôle. Et évidemment, lui, il tenait à faire cela avec un certain sérieux. Pas, il fallait comprendre tout ça très au sérieux pour qu'on puisse le raconter sérieusement. Or, c'est ce que je viens de faire.
Clé pour un théâtre-musée. Persistance de la mémoire, Salvador Dali, par Daniel Lecomte et Jacqueline Archambault, avec Jacques Hérold, Liuba et Robert Lebel.
C'était le 3e des 10 épisodes de la série Clé pour un théâtre-musée, première diffusion le 8 novembre 1978 dans Les Nuits Magnétiques, sur France Culture. À suivre.